Le SIEC, le salon du retail et de l'immobilier commercial, sur la thématique « Continuons d'écrire l'avenir du commerce ensemble » les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo.
Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. La matinée se poursuit gentiment au SIEC, le salon de l'immobilier commercial et du retail. Et nous poursuivons notre route à la rencontre maintenant d'une franchise. Elle s'appelle Galimo et j'ai en face de moi son directeur général. Bonjour Maël Austin.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir ce matin à l'occasion du SIEC. Galimo, je le disais, c'est une foncière. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Alors Galimo est une foncière qui a 5 ans, qui a été créée en 2016. Une foncière qui est attenante et partenaire des hypermarchés Cora. Donc quand on a créé le groupe en 2016, on est venu récupérer et racheter 66 centres commerciaux sur 4 pays, France, Belgique, Luxembourg et Roumanie. Donc voilà, on a créé ce groupe en 2016 et j'ai la chance de diriger ce groupe depuis 5 ans.
Depuis le début donc.
Depuis le début, exactement.
comment ça se passe? Cora, c'est une marque qu'on voit peut-être un peu moins, je me risque à le dire.
Oui, alors... On communique très peu, le groupe communique très peu sur Cora. Cora est un groupe privé, 100% détenu par une famille, et donc avec sans doute un peu moins de communication au niveau national que pour d'autres enseignes. Un groupe très présent dans le nord et dans l'est de la France, avec du coup 52 sites avec Galimo en France et 61 hypermarchés au total sur la grande partie nord, on va dire, de la France. Donc non, une enseigne quand même assez présente avec un groupe, Louis Delhaize, qui détient du coup cette enseigne Cora, qui détient d'autres enseignes, hein, puisque le groupe détient également les supermarchés Match, également très présent dans le nord et dans l'est, mais également d'autres enseignes comme Truffaut, qui fait partie du groupe.
Peut-être que je m'avance un peu, je crois qu'il y a des enseignes Delhaize en Belgique également, non ?
Tout à fait. Donc le groupe est belge. Et donc en Belgique, on a également des hypermarchés Cora, des supermarchés Match, mais également d'autres enseignes, comme l'enseigne Louis Delhaize, du même nom que le groupe, qui sont des supérettes et des enseignes de proximité. Donc oui, on est présent également en Belgique avec cette enseigne Delhaize.
Ça a l'air assez local comme activité. En tout cas, l'échelle a l'air plutôt locale. Pourtant, Galimo est national, on est d'accord.
Oui, alors c'est un groupe qui est plus présent sur certaines régions, comme on l'a dit, à la fois en Belgique, Luxembourg, Roumanie également, on y reviendra peut-être, mais également la grande moitié nord de la France. Mais on a une couverture nationale, hein, puisqu'on a des sites quand même à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Évian. Donc on va quand même au-delà du nord et de l'est de la France. Donc oui, une couverture nationale avec Galimo qui a été créé du coup en 2016 en venant récupérer ses centres commerciaux et ses galeries qui étaient attenantes à tous ces hypermarchés Cora. Donc on est venu séparer finalement l'immobilier de commerce, l'immobilier des centres commerciaux, des hypermarchés qui jusque-là détenaient directement leurs galeries.
Donc Galimo présent en France, mais également dans d'autres pays. On a cité la Roumanie.
Exactement.
Est-ce que le marché français est très différent de ses voisins européens ?
Alors chaque marché est différent. Et j'ai envie de dire, au-delà du marché national, chaque zone de chalandise est différente. Mais si on regarde, nous on est très présent en France et en Belgique, et un petit peu moins, mais également présent au Luxembourg et en Roumanie. Alors chaque marché est différent, chaque marché a sa propre dynamique, a ses enseignes, et a des cycles qui sont parfois différents. Donc oui, il faut s'adapter, et du coup il faut des équipes en local. On gère pas la Roumanie depuis la France, on a des équipes en Roumanie, on a des équipes évidemment en Belgique, et qui gèrent également la partie luxembourgeoise. Donc c'est des marchés assez locaux finalement, sur lequel il faut qu'on ait des équipes qui gèrent au contact, on va dire, des enseignes, au contact des sites et puis au contact de l'ensemble des commerçants que l'on a sur nos galeries.
On va être un peu franco-français. Comment ça se passe chez nous? Quelles sont les spécificités qui font finalement le marché français?
Alors sur le marché français, nous du coup on est un opérateur de centres commerciaux et de galeries principalement implantés sur des villes moyennes, qui sont les implantations historiques finalement des hypermarchés Cora. Avec des centres...
Donc ce ne sont pas forcément des grands centres.
Alors, on a deux typologies de sites. On a ce qu'on appelle des galeries de proximité, qui sont plus petites, on va dire d'une vingtaine de boutiques, qui accompagnent du coup en serviciel l'activité de l'hypermarché. Et puis ensuite, on a des sites de shopping conviviaux qui sont de taille plus importante, où on va jusqu'à 50, 60, 70 boutiques, où là, on retrouve quelque chose de plus classique en centre commercial, où vous allez retrouver une offre complète, avec évidemment de la cosmétique, du textile, mais également de la restauration et d'autres types d'usages. Donc on retrouve ces deux catégories avec des implantations sur nos sites shopping conviviaux qui sont plutôt sur des agglomérations un peu plus importantes, comme Nancy, comme Strasbourg, comme Mulhouse, et puis des sites de proximité qui sont sur des villes moyennes un petit peu plus petites. Donc on est implanté globalement sur ces agglomérations et un petit peu moins sur les très grandes agglomérations comme la région parisienne, Lyon ou Marseille, où on n'est pas du tout.
Est-ce que les sites un peu plus petits, ceux de proximité dont vous nous avez parlé, accusent aujourd'hui un peu moins de fréquentation due aux nouveaux usages et aux nouvelles envies, ou est-ce qu'ils continuent de bien fonctionner ?
Alors, on a observé tout l'inverse durant ces 18 derniers mois, c'est que ces sites de proximité, ils ont eu beaucoup de sens pendant cette période de crise. C'est des sites de proximité. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, nos clients, viennent de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire pour faire leurs courses alimentaires ou non alimentaires. Et donc ces sites ont une très forte résilience pendant ces 18 derniers mois, avec des clients qui ont continué de venir, qui avaient besoin d'acheter des courses alimentaires et qui ont finalement utilisé ces hypermarchés comme des lieux de proximité sur lesquels ils ont continué de venir. Donc ce qu'on a observé vraiment sur ces 18 derniers mois, c'est une forte résilience de ces sites. À l'inverse de ce qu'on pouvait penser peut-être
parce
au niveau national.
Parce que peut-être ils sont, à prendre avec des pincettes, mais ils sont plus essentiels.
Alors oui, on pourrait le voir comme ça. Ils étaient essentiels pour.
Disons qu'on y va moins pour se promener ou pour passer du bon temps.
Exactement.
Y va parce qu'on a des besoins.
Tout à fait. Et puis je pense qu'il faut regarder les choses au niveau local. Une ville moyenne n'est pas une grande métropole. Un hypermarché sur une ville moyenne a un rôle social, sociétal, mais également un rôle de proximité beaucoup plus important qu'un hypermarché dans une très très grande ville. Donc ils ont été résilients, oui, ils ont bien fonctionné durant ces 18 derniers mois, donc on est très satisfaits.
Oui, les autres alors ?
Alors les autres, nos sites de shopping conviviaux qui sont plus importants sont aussi implantés sur des agglomérations certes plus importantes, mais on n'est pas sur la région parisienne, et donc on a observé différents phénomènes. Premièrement, les gens ont continué de venir pour leurs courses alimentaires. Nos sites sont restés ouverts depuis les 18 derniers mois. Ensuite, on a eu des périodes de fermeture de certaines activités dites non essentielles, même si j'aime pas beaucoup le terme. Et globalement, ce qu'on observe, c'est une très bonne reprise. On observe que les chiffres d'affaires reviennent et que sur le T3, en tout cas, depuis le mois de juillet, on observe des chiffres d'affaires qui sont quasiment étals par rapport à 2019. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que les clients sont revenus. Ensuite, durant ces 18 derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. C'est difficile d'analyser les choses au niveau global, puisqu'on a eu ces périodes de fermeture, on a eu des réouvertures, on a eu des moments fast, on a eu des moments moins fast, évidemment. Donc au global, notre appréhension de la situation et notre compréhension de la situation, c'est qu'il faut regarder les choses comme elles sont aujourd'hui, et puis on va se tourner vers l'avenir, parce que ce qui s'est passé dans ces 18 derniers mois, c'était pas forcément très agréable à la fois pour nos clients, à la fois pour nos commerçants et pour nous.
On peut quand même en sortir une bonne nouvelle, c'est que vos données montrent un certain attachement au commerce physique.
Oui, tout à fait. Alors, on n'en a jamais vraiment douté, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que les gens sont revenus, les chiffres d'affaires sont revenus, en tout cas depuis cet été et depuis le mois de juillet, et c'est une excellente nouvelle. Et quand on prédisait effectivement en 2019 la mort du commerce physique, on se rend compte que finalement c'est complètement différent de ce qu'on pouvait imaginer, que le e-commerce, il faut le prendre en compte, qu'il a un rôle à jouer, on va dire, dans les parcours de commerce, mais que le commerce physique est bien là et continue d'être attrayant, on va dire, pour nos clients. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle et c'est finalement la démonstration que le commerce physique joue son rôle. Maintenant, il faut l'adapter, il faut investir, il faut de nouveaux usages, il faut comprendre ce que nos clients nous demandent. Et ça, c'est une chose auquel on s'attelle évidemment aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour rendre ce commerce physique et ces centres commerciaux encore plus attractifs ?
Alors je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est éviter de faire des généralités sur l'ensemble des centres commerciaux en France ou sur l'ensemble des agglomérations.
C'est pas un modèle qu'on va décliner partout et qui va fonctionner partout.
Non, en tout cas chez Galimmo, on ne croit pas du tout à ce principe. Ce qu'on pense, c'est que chaque zone de chalandise, chaque site est extrêmement, extrêmement particulier, extrêmement différent des autres. Du coup, nous, ce qu'on a mis en place depuis 5 ans, c'est une méthode, ce qu'on appelle la co-conception. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut définir un projet ou définir tout simplement l'évolution d'un site, on va sur le site. On fait de la co-conception avec nos clients, avec nos non-clients, avec nos commerçants, avec les élus locaux, et on définit avec eux qu'est-ce qu'il faut faire sur ce site. Donc on évite de faire des recettes, on va dire, toutes faites au niveau national, et on s'adapte à chaque site, ça c'est la première chose. Les grandes conclusions qu'on peut tirer, en tout cas depuis plusieurs années, c'est qu'il faut apporter de nouveaux usages. Le commerce seul, tel qu'on l'imaginait il y a 10 ou 15 ans, ça ne fonctionne plus, nos clients nous demandent autre chose. Alors, première chose, c'est qu'ils nous demandent plus de restauration. Ça, on avait vu cette tendance déjà arriver depuis plusieurs années, mais pas que. Un autre exemple de nouveaux usages, on a des centres, nous, de proximité, qui sont des lieux de vie, en plus d'être des lieux de commerce. Donc on est en train de développer, par exemple, des pôles santé. Alors, il y a 5 ou 10 ans, on n'aurait jamais imaginé mettre un pôle santé dans un centre commercial.
La pharmacie, c'était le grand maximum.
Exactement, exactement. Et là, on va implanter une vingtaine de pôles de santé sur le patrimoine de Galimmo, donc sur 50 sites. Donc c'est colossal à l'échelle de notre patrimoine, parce que ça fait du sens, parce qu'on a des sites qui sont extrêmement bien situés, qui sont pratiques, avec des parkings gratuits, et que tout simplement, les clients le demandent. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et puis, pour en donner un troisième, c'est évidemment le seconde main, qui est une tendance de fond, où là, on commence à installer des commerçants qui font la seconde main. Et encore une fois, ça vient des demandes des clients. Faut, je pense, à mon sens, éviter de prendre des grandes décisions pour revenir sur ce qu'on disait au niveau national et bien écouter ce qui se passe en local.
Est-ce que vous croyez qu'un jour, on arrivera au modèle qu'on connaît dans certains pays du Moyen-Orient, de l'énorme mall qui devient véritablement une ville ?
Alors, on en a déjà des très grands en Europe. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre en compte les spécificités de l'Europe et de l'Europe de l'Ouest, avec des centres-villes extrêmement puissants. Et du coup, le commerce ne sera jamais comme au Moyen-Orient. Il sera différent, il sera adapté. Il y a des centres-villes qui sont là, il faut en tenir compte, et c'est une très très bonne chose. Il y a des centres commerciaux qui ont aussi leur rôle à jouer. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a déjà des grands centres, mais qu'on ne deviendra jamais le Moyen-Orient. Non,
on n'ira jamais skier en allant faire ses courses.
Il y a quelques années, je vous aurais peut-être répondu différemment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'investisseurs et de promoteurs qui s'aventureraient à mettre une piste de ski pour différentes raisons d'ailleurs, et aussi pour des raisons évidemment environnementales.
C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, vous parliez de seconde main, mais aujourd'hui les clients cherchent également un commerce plus durable.
Exactement, exactement. Donc il y a comment est-ce que du coup je change ma façon d'acheter, mais également quand je me rends sur un lieu en tant que client, je veux que ce soit un lieu à la fois agréable, mais qui ait un impact social et sociétal positif. Et du coup, c'est au travers de ma façon d'acheter, mais c'est aussi au travers d'un site qui correspond à mes envies et à mes attentes en tant que client et en tant que consommateur.
Dernière question pour vous, Maëlle. Quels sont les projets à venir pour Galimmo ?
Alors, chez Galimmo, on a un certain nombre de projets qu'on est en train de développer. Alors, on en a développé un certain nombre depuis 5 ans et on va continuer. Nous, notre parti pris depuis 5 ans, c'est de dire on ne va pas créer de nouveaux centres ex nihilo parce qu'il y en a suffisamment sur les zones où on est implanté et peut-être d'ailleurs suffisamment en France tout court, mais qu'on va plutôt renforcer nos pôles existants. Les renforcer en y apportant, on l'a dit, de nouveaux usages, en les rénovant, parfois en faisant des extensions raisonnables et surtout en les restructurant puisqu'on a des enveloppes et des bâtis qui sont suffisamment importants pour amener tout ça, pour amener ces nouveaux usages et pour les transformer. Donc c'est important pour les zones où on est implanté. On est souvent le premier employeur privé des zones de chalandise où on est implanté, donc on va continuer de le faire et continuer de le faire pendant les 5 ans qui viennent, à minima évidemment.
Merci beaucoup Maëlle Aoustin, directeur général de Galimmo. Merci d'avoir été sur notre plateau ce matin, c'était un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous, au revoir.
Le SIEC, le salon du retail et de l'immobilier commercial, sur la thématique « Continuons d'écrire l'avenir du commerce ensemble » les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo.